Voilà, alors ce matin, nous allons, bien sûr, comme il a été dit, ouvrir la parole de Dieu. Et je vous propose de lire dans Deutéronome, chapitre 33, verset 1er, on fera deux lectures. La rosée de Dieu, pas la rosée d'en bas, mais la rosée de Dieu. La rosée d'en bas va nous servir de support. Je ne sais pas si vous étiez au rassemblement qui a eu lieu, c'est pour l'Ascension, au parc de Figueroles. Voilà, qui était là? Qui était là-bas plutôt? Ah, il y en a un, deux. Oh, il n'y a pas des masses, hein? Vous n'aimez pas le jardin? Vous avez des beaux jardins ici, la belle nature. Enfin, on avait passé un bon petit moment avec les frères et sœurs du secteur. Et pour ceux qui étaient là-bas, puisque j'avais la charge encore d'apporter la parole, j'avais proposé le psaume 133, pour ceux qui ont la bonne mémoire. Hein. 133, que vous connaissez bien. Hein. Après le psaume 23, c'est le 133 pour moi, hein, voyez, qu'on connaît bien, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là. Bon, on verra la suite après. Alors, en réalité, ce que j'avais fait au parc Figueroles, c'est la conclusion. Donc maintenant, on va commencer par le commencement. C'est le même thème, mais j'avais pris que le dernier point. Donc ça va compléter pour ceux qui étaient là-bas et ceux qui n'étaient pas là-bas. Donc vous aurez la totalité. Donc tout le monde sera content. J'espère. Voilà, alors on est dans Deutéronome, chapitre 33, verset 1er. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort, il dit. Et on lit au verset 13, voilà. Sur Joseph, il dit, puisque sur chacune des tribus, il prononcera une parole, une bénédiction, mais ce qui nous intéresse, c'est Joseph. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée. Hein? Les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme, que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. Amen. Il recevra en signe de bénédiction la rosée du ciel, le meilleur don. Bien sûr, dans ce passage, on voit bien que Joseph, dans la bénédiction que Moïse, homme de Dieu, avant sa mort, avant d'aller auprès du Seigneur, n'est-ce pas, que le Seigneur le retire de cette terre, eh bien, il va prononcer ces paroles, le meilleur. Cette fois, il est dit le meilleur. Le meilleur sera pour Joseph. En tout cas, quand il a commencé, il avait 17 ans. Ses frères n'ont pas voulu le meilleur pour lui. Hein. Ils ont dit, c'est un rêveur. Il croit qu'on va se prosterner devant lui. Voilà ce rêveur. Ils l'ont saisi. Ils l'ont dépouillé sa belle tunique de plusieurs couleurs un peu princières. Et ils l'ont jeté dans une citerne. Heureusement, il n'y avait pas d'eau. Vous voyez, comme quoi les choses sont limitées. Même si le Seigneur permet l'épreuve, il limite les choses. Il y a des limites à ne pas franchir. Et il prévoit une sortie de secours. En attendant, Joseph est là dans la citerne. Et puis, il y en a un qui dit, bien... notre frère, bon, on l'a jeté, tuons-le, on se débarrasse de lui, mais il y en a un qui dit quand même, on pourrait faire un peu d'argent. Vous voyez, ils sont toujours un peu coquins, n'est-ce pas? Il dit, c'est dommage, hein, à faire les choses comme ça. On va le vendre. Et puis, on l'a vendu, vous vous rappelez certainement, pour 20 pièces. 20 pièces. Jésus, on l'a vendu pour 30 pièces, n'est-ce pas? Donc, il va subir à 17 ans. eh bien, dépouillement, il va être accusé faussement, il va être jeté en prison, il va être oublié. Enfin, il va passer par tout un processus, comme dira une parole des psaumes, la parole de l'Éternel l'éprouva. Donc, il est passé par l'épreuve, il est passé par le dépouillement, il est passé par l'injustice, il est passé par tout un processus. Mais au temps voulu, le Seigneur l'a fait sortir de prison et l'a mis sur, on peut dire, le trône de l'Égypte. Il est passé du dépouillement au revêtement et à la gloire. Et c'est là que Joseph, eh bien, est passé par ce processus et il a reçu la bénédiction de Dieu, la rosée du ciel, parce qu'au travers de cette épreuve, eh bien, il est resté sauveur. On dira à genoux devant Joseph, on présentera Joseph comme le sauveur de l'Égypte. Bien sûr, nous, notre sauveur, c'est le Seigneur Jésus. Il recevra comme signe. La rosée du ciel pour Joseph ne sera qu'un signe de bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes des gens privilégiés parce que nous ne nous arrêtons pas à des signes, à des marques, à des indications, à des types, des ombres. Pour nous, nous avons la réalité de la bénédiction. La réalité de la bénédiction spirituelle, c'est ce que dit Paul aux Éphésiens. Il bénit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Est-ce que vous êtes en Christ? Si vous êtes en Christ, il faut demeurer en Christ. Il faut rester en Christ. Il ne faut pas bouger, n'est-ce pas? Il faut progresser dans la vie du Seigneur. Mais nous sommes des enfants de Dieu et notre privilège, c'est d'être en Christ, d'appartenir en Christ, à Christ, mais d'être en Christ afin qu'il demeure en nous. C'est en Christ que nous sommes devenus une nouvelle création. La bénédiction, ce n'est pas simplement une rosée matérielle. Pour nous, des fois, la bénédiction ressemble à quelque chose de matériel, de physique. Mais avant tout, la bénédiction est spirituelle. Nous considérons souvent le temps présent, le visible, le temporel, alors que le Seigneur nous propose l'invisible et l'éternel, les choses, les vraies valeurs, les valeurs spirituelles. Donc c'est en Christ que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit que, c'est par l'Épître aux Éphésiens, que en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. C'est notre position. Vous êtes assis dans ce lieu, c'est vrai, ce matin, dans ce lieu terrestre, mais notre position spirituelle, c'est d'être dans ce lieu de victoire, de domination, d'autorité. Il n'est pas dit, il va vous bénir, mais il nous a bénis en Christ. Nous sommes déjà bénis. Vous êtes bénis. Hein? Des fois, on dit, bénis-moi. Oui, bien sûr, il y a un sens. Mais nous sommes, parce que c'est en lui et en Christ que nous avons tout pleinement. C'est en lui que nous sommes sauvés, que nous avons la rédemption, il est notre sagesse, il est notre justification, il est même notre sanctification, hein, en Christ. Si nous sommes en Christ, nous avons tout pleinement, mais hors de Christ, nous n'avons rien du tout. D'ailleurs, le Seigneur disait à ses disciples, sans moi, eh bien, en somme, vous n'avez rien. Hors de moi, hors de Christ, il n'y a rien. Hors de Christ, il n'y a pas de salut. Mais en Christ, il y a pour nous le salut, la vie. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans une position de victoire et de bénédiction. Bénir dans l'Ancienne Alliance, surtout dans l'Ancien Testament, c'était avant tout transmettre. Par exemple, le Père bénissait son Fils, il lui transmettait ce qu'il avait. C'est bénir a un sens de louer, de rendre grâce, de remercier. Ça, c'est un sens. Mais le sens, surtout de l'Ancienne Alliance, bénir quelqu'un, c'est lui donner. c'est lui transmettre, c'est lui communiquer la vie, c'est communiquer le souffle. D'ailleurs, quand Dieu a créé l'homme et la femme, au départ, eh bien, la Bible dit « Dieu le bénit hein ». Donc, il lui a transmis son souffle de vie. Donc, c'est un sens de quelque chose de bien et d'enrichissant. Si Joseph a reçu comme signe, et nous avons la réalité, la Bible dit bien que c'était l'ombre des choses. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la réalité, en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pas simplement, souvent, et je le répète, dans le sens physique, moral, etc. Mais c'est avant tout dans l'esprit, les choses de l'esprit, les choses spirituelles, les choses que le Seigneur veut nous donner. Nous pensons souvent d'une manière très terrestre. Mais il faut s'élever, hein, parce que nous sommes morts par le baptême, symbole de mort, mais nous sommes bien sortis de l'eau en signe de résurrection, de vie. Et nous sommes ressuscités en Christ, en vie nouvelle. Et cette vie nouvelle doit grandir, elle doit progresser, elle doit se développer jusqu'à une maturité spirituelle. Mais tout cela, c'est en Christ. La rosée, c'est simple. Ce matin, nous, à Marignane, un peu avant que je parte, d'un coup, le ciel s'est ouvert, il y a eu de la pluie. Mais ce n'était pas la rosée. Hein. Ce n'était pas la rosée. Je ne sais pas si ici il a plu aussi, non? Ah, un peu. Ce n'était pas la rosée. La pluie, ça vient, j'allais dire, même des fois, c'est l'orage, ça inonde. La première chose, on voit dans le livre de la Genèse, quand Dieu a créé le monde, eh bien, il y a eu une vapeur qui s'est élevée, qui a arrosé la nature. La pluie est citée, surtout quand Noé a construit son arche. Alors là, il a plu. Il a plu, alors là, ça ne s'arrêtait plus. Hein. 40 jours et 40 nuits, à tel point que ça fait inondation, massacre. La pluie, parfois, elle est torrentielle, elle inonde. La rosée, elle descend dans le silence. Elle descend pour rafraîchir la nature. Vous savez, tous les jours et tous les matins, descend normalement la rosée, comme nous allons le voir, sous certaines conditions. Mais nous, ce que nous voulons, c'est la rosée spirituelle. Quand il y a des nuages, il n'y a pas de rosée. Quand il y a certains points que nous allons voir ce matin, il n'y a pas de rosée. Il faut qu'on remplisse certaines conditions pour que la rosée descende. Et comme vous voulez que la rosée du ciel, la vraie, la spirituelle, descende sur nos vies, nos maisons, sur l'Église, nous rafraîchisse, nous bénisse, eh bien, il faut rentrer dans le dessein de Dieu. Par exemple, dans le livre de la Genèse, au chapitre 27 et verset 39, c'est Isaac qui dira à son fils Ésaü, « Ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. » C'est dramatique, ça. Ta demeure sera privée. Il n'y aura pas de graisse qui est symbole de vie et d'abondance, mais tu n'auras pas de rosée. Ésaü n'a pas reçu la rosée du ciel. Il n'a pas reçu la bénédiction. D'abord, vous savez que ce qui s'est passé, c'est que Ésaü, il a méprisé son droit d'aînesse. C'est dans le livre des Hébreux qu'il est dit qu'il n'y ait pas de profane comme Ésaü qui méprise, n'est-ce pas, son droit d'aînesse. Il s'est fait voler, mais il l'a vendu. Vous vous rappelez que c'était un chasseur, il est revenu des champs, son frère Jacob, puisqu'ils étaient jumeaux, vous vous rappelez de cela. Eh bien, l'un, ils ont grandi, donc l'un était dans la maison, c'était un peu l'homme de famille, Jacob, tandis que l'autre, c'était un aventurier, un chasseur. Et un jour, il est rentré épuisé et il a senti une bonne odeur. Vous savez, c'est terrible. Quand vous avez faim et que vous sentez un bon roux, il avait fait ce Jacob avec sa maman, là, un bon roux. Alors, je ne sais pas s'il y avait des petits lardons, des petites saucisses, enfin, vous voyez, un bon roux, là. Et quand vous avez faim, il était épuisé. Eh bien, il a dit, écoute, donne-moi de ce roux. Et comme Jacob, vous voyez, lui aussi, il était intéressé, il a dit, bon, je veux bien t'en donner une bonne soupe, là, hein, t'en donner une part, mais vends-moi ton droit d'aînesse, le droit de naissance, la priorité, la valeur, ce que le père va te transmettre, eh bien, tu me le donnes. Et l'autre, il a dit, ben, je vais mourir, alors je te donne le droit d'aînesse. Mais après, eh bien, il a réalisé qu'il avait fait une grave erreur, et quand il a voulu, même avec larmes, eh bien, l'avoir, c'était trop tard. Son père déjà avait transmis à Jacob, le supplanteur, n'est-ce pas, ce droit d'aînesse. Il était un profane. Qu'est-ce qu'un profane ? C'est quelqu'un qui ne donne pas aux choses saintes la vraie valeur. Il a sous-estimé, il a méprisé. Alors que cela représentait une valeur devant Dieu et pour lui-même, eh bien, il l'a sous-estimé, il l'a méprisé, il l'a abaissé, il a vendu son droit de naissance. En somme, pour satisfaire un besoin humain charnel, il a méprisé des biens spirituels. Et c'est l'image de le profane, c'est cela. C'est l'homme qui vit selon la chair, mais pas selon l'esprit. Il est prêt à laisser vendre les choses spirituelles, c'est pas sa priorité, mais de satisfaire la chair. Et vous savez que nous, il y a toujours dans notre vie spirituelle un combat entre la chair et l'esprit. La Bible dit quoi ? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Hein ? Les vrais, les spirituels, c'est la vie, et non à celles qui sont sur la terre, d'en bas, et ça c'est la mort. Et Romains 8, 6 dira, l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Qu'il n'y ait personne qui soit comme Ésaü, eh bien, qui veut satisfaire le vieil homme. Non, nous sommes des gens spirituels. Nous devons nous attacher aux choses spirituelles. Nous recherchons la bénédiction spirituelle. Nous cherchons les choses d'en haut, puisque nous sommes déjà des gens d'en haut. Avant, on était d'en bas, hein, le terrestre. Mais si nous nous attachons et nous vivons pour le terrestre, eh bien le terrestre, il va disparaître. Tandis que le spirituel, lui, il va demeurer pour toujours. Hein. Et nous sommes en transition. Nous ne voulons pas vivre selon la chair, mais nous voulons vivre selon l'esprit. Nous ne voulons pas vivre simplement pour les choses du temps présent, mais nous voulons vivre pour les choses véritables, les spirituelles, les éternelles. Les invisibles sont les éternelles, les véritables. Mais tout ce qui est de la terre n'est que temporel, passager. En somme, Romains dit bien 8, « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Et comme nous voulons plaire à Dieu, nous devons nous affectionner et rechercher les choses du royaume de Dieu. D'ailleurs, l'Écriture le dit bien, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le reste, le Seigneur s'en occupe, le manger, le boire, le vêtement. Ce n'est pas la priorité. Nous devons vivre, la priorité, c'est le royaume de Dieu. Il y a aussi du temps de le roi Acab. C'est 1 Roi 17:1. Il est question de Élie. Élie, le prophète, qui est venu voir le roi Acab, un roi d'Israël qui avait une femme terrible, n'est-ce pas ? Jézabel, hein, celle qui voulait tuer, vous vous rappelez d'elle, hein, terrible, hein, elle voulait tuer Élie. Hein. Et la Bible nous dit qu'un temps, Dieu a protégé Élie au bord du torrent de Kérit et il rencontrera Acab et il lui dira ce message, « L'Éternel est vivant. » Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Vous savez que ça a duré 3 ans, ça hein ? 3 ans, ça a été long. Hein. Et puis Dieu a dit, va rencontrer Akab. On peut se dire, mais pourquoi Élie a cette parole de jugement, de dire, mais il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée, ça va être la sécheresse. Ça... Bien, nous avons la réponse, la parole de Dieu nous dit que quand Élie a rencontré Akab, eh bien, Akab a accusé Élie, c'est à cause de toi que nous sommes dans cette situation. Élie lui a dit, non, ce n'est pas à cause de moi, c'est vous, Israël, c'est toi, Akab, n'est-ce pas, qui est responsable. Vous avez abandonné les commandements du Dieu de l'Éternel. Vous avez abandonné les commandements. Vous êtes allé après les Baals, hein, c'est-à-dire les faux dieux et les idoles. À tel point que Élie, devant la montagne du Carmel, vous vous rappelez en haut, il dira « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Quand notre cœur est partagé, quand nous délaissons le Seigneur, nous l'abandonnons, quand nous préférons l'idolâtrie, eh bien, il n'y a pas de rosée. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pourrez réclamer la rosée, il n'y aura pas de rosée. Mais quand on est fidèle, il y a la rosée. Amen. Hein ? Quand on est attaché, on demeure attaché au Seigneur, on est et on reçoit cette rosée. Donc, Élie va rétablir l'autel de l'Éternel, il va offrir le sacrifice, il va invoquer le Seigneur et les cœurs vont revenir au Seigneur. Et moi, je crois que la rosée va descendre. Quand les cœurs reviennent à Dieu, la rosée descend. La bénédiction est là, vous voyez, tout simplement. La grande bénédiction. Il y a une autre, on va avoir 3 négatifs, 3 positifs. Vous voyez, j'ai commencé par le moins bon, hein, mais je vais bien finir. Voilà, hein, il faut toujours bien finir. C'est ça, là. Quand on est au Seigneur, ça finira toujours bien. Même si on passe par le tunnel, des fois, le bout arrive. La troisième parole négative, c'est quand il est dit... Tout à l'heure, je vous parlais de nuages. Quand il y a des nuages, il n'y a pas de rosée. Et quand il y a du vent, il n'y a pas de rosée non plus. Alors, vous voyez, ici, souvent, le vent, il souffle. Le mistral, il souffle. Pas dans l'église, mais je parle dehors. Hein. Quand il y a du vent, pas de rosée. Donc, sécheresse. Sécheresse. Dans la Bible, il est dit, dans Éphésiens 4 et 14, il est dit, « Ne soyez plus des enfants flottant, emporté à tout vent. » Parce que le vent, ça déménage, hein, ça emporte. On ne contrôle plus, on est maîtrisé. À tout vent de doctrine. Nous, on a connu les Caraïbes, n'est-ce pas ? Là-bas, on a eu les cyclones, n'est-ce pas ? Alors, les cyclones, là, c'est la maison qui était là, elle est là-bas. Hein, ça déplace, ça emporte tout, n'est-ce pas ? Ça déracine, ça fait des dégâts, hein. Des dégâts terribles. On m'avait montré des photos du cyclone Hugo qui a eu en Guadeloupe à une époque. On m'avait dit qu'il y avait 600 maisons. Bon, ce n'étaient pas des maisons très lourdes, hein, mais qui avaient déménagé, n'est-ce pas ? On aurait dit qu'il y avait eu une bombe, la guerre, tous les arbres, hein, il n'y avait plus une feuille, n'est-ce pas ? Tout était là où ça passe et on a vu les dégâts qui se sont produits à Saint-Martin, tous ces dégâts. Les vents de doctrine. Est-ce qu'il y a encore des vents de doctrine ? Oui, il y a toujours des vents de doctrine. Il y a toujours des vents qui essayent de déraciner, déstabiliser, même qui viennent pour emporter. Moi, j'ai connu, lorsque j'étais sur Narbonne, il y a quelques années de cela, n'est-ce pas ? C'est en 1980, vous voyez, c'était hier, quoi. Pas notre église, mais l'église d'à côté, Carcassonne, avait connu un vent qui était passé des soi-disant, je ne sais pas, pasteurs, docteurs, enfin. Ils disaient, ah, oui, ils avaient infiltré l'église. Ils disaient, alors attention, hein, personne n'a infiltré ici, qui dit, oui, mais comment vous avez été baptisé ? Alors, il y avait toute une histoire sur comment vous avez été baptisé, vous avez été baptisé. Il dit, ben, moi j'étais baptisé dans l'eau, bien sûr, peu importe l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah non, il dit, mais ça c'est pas la bonne formule, vous n'avez pas été bien baptisé. On est baptisé au nom de Jésus. Si vous n'avez pas été baptisé au nom de Jésus, vous n'avez pas été baptisé, donc vous n'êtes pas sauvé, quoi. Hein. Il faut vous faire rebaptiser. Et il y avait des gens, ils se sont fait rebaptiser dans la nouvelle formule, comme si c'était une formule qui sauve, vous voyez. Donc, ça déstabilise des gens qui arrivent, ils disent une partie de vérité. Mais être baptisé au nom de Jésus, parce que c'est vrai, c'est écrit dans les Actes des Apôtres, on voit, ils ont été baptisés au nom de Jésus, etc. Mais être baptisé au nom de Jésus, c'est être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce n'est pas la formule qui sauvera. Je pense que vous êtes bien sauvés, n'est-ce pas? Si demain on vous dit, ah non, 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 mais on va vous rebaptiser là, hein? Même si c'était moi, ça c'est un nouvel évangile. Il y a toutes sortes de doctrines. Dernièrement, on me parlait la doctrine, un évangile, vous savez, en Amérique, de partout, il y a des choses comme ça. Oui, quand on est chrétien, on est béni, on est super béni, on est riche. Si vous êtes pauvre, c'est que vous n'êtes pas béni. Bon, alors, eux, ils sont pour des bénédictions temporelles. Voyez. Nous, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, avant tout, spirituelles. Alors, c'est vrai que quand on est au Seigneur, eh bien, le Seigneur s'occupe de nous et on n'est pas des mendiants. Là, l'Écriture dit que le Seigneur va pourvoir. Ça ne veut pas dire que des fois, le banquier peut appeler et dire « Oh, votre compte, il est rouge en ce moment. Hein. » Aïe, 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 des fois c'est un peu le fond. Mais Dieu peut permettre qu'on passe par le rouge, mais après le vert va venir. Hein. Ainsi, on peut dire, oui, Dieu bénit et nous donne en abondance, mais ce n'est pas la richesse qui est le but de cela, parce que c'est que le temporel. Mais Dieu s'occupe de nous, et en réalité, notre richesse, c'est d'être à Christ, de garder sa parole, ses commandements et son amour, et de marcher fidèlement en lui. Vous savez, l'Écriture dit, et je pourrais vous donner bien des exemples, mais ce n'est pas le but, ça. Mais les gens auront la démangeaison, même ça peut se produire au milieu de nous, quand ça vous gratte, démanger. C'est la maladie, ça, hein, quand même, quand ce n'est pas normal. Ça. La démangeaison d'entendre des choses agréables, qui plaisent. Et on vit un peu dans un monde aujourd'hui, on est très branché, il faut que ça plaise. D'abord, je fais ce qui me plaît, je fais ce que je veux. Non, tu ne fais pas ce qui te plaît, ce qui te veut, tu fais ce qui plaît au Seigneur, d'abord. Et ce qui est important pour nous, ce n'est pas de chercher les choses agréables, mais c'est de marcher dans la vérité. La vérité. La vérité, elle est au-dessus de ce qui nous plaît. Et avant tout, nous ne cherchons pas ce qui nous plaît, nous devons chercher non pas à satisfaire la chair, mais de satisfaire le Seigneur, parce que le but de notre vie, et il y a plein d'exemples dans l'Écriture qui nous montrent que ce que nous devons chercher en tant qu'enfants de Dieu, c'est à plaire au Seigneur, à plaire au Seigneur. La foi est agréable à notre Dieu. Là, nous cherchons à plaire au Seigneur et avoir son approbation. Bon, ça, c'était point un peu négatif qui montre qu'il n'y a pas de rosée. Mais il y a un remède quand même, hein, il y a un remède. Là, point positif sur la rosée qui nous montre l'action de l'Esprit, c'est Ésaïe 26, 19. Ésaïe 26, 19. Ah ben, c'est même plus complet. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Rayez-vous, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante. Elle a le dessus sur ce qui est mort. Elle est vivifiante, c'est-à-dire elle communique la vie. C'est l'action de l'Esprit. Hein ? La Bible dit bien, c'est le Seigneur qui le dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 63, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien, hein. C'est l'Esprit qui est vie. Si nous sommes nés de nouveau, c'est parce que nous sommes nés de l'Esprit. C'est l'Esprit qui a créé en nous la nouvelle naissance. Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan, royaume de Dieu, mais c'est l'Esprit. Rien ne peut se faire sans l'Esprit. Nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort, mais nous sommes sous la loi de l'Esprit de vie. L'Esprit est vie. Si l'Esprit se retire de nous, nous sommes morts. C'est ce qui est arrivé à Samson, n'est-ce pas? On l'a entendu ce matin, quand le Seigneur s'est retiré. Donc, qu'est-ce qui lui donnait la force? Ce n'est pas les cheveux, vous voyez, heureusement, mais c'est que l'Esprit et même la sanctification, Dieu était présent en lui parce qu'il était consacré à Dieu. Le jour où il a perdu les signes, les cheveux n'étaient que le signe, hein, comme là, la rosée n'est qu'un signe. Il a perdu cette sanctification, il a perdu cette consécration, et le Seigneur s'est retiré de lui. S'est retiré. L'Esprit est parti, et si l'Esprit s'en va, c'est la mort. Mais si l'Esprit remplit, c'est la vie. Et j'espère que ce matin, nous sommes vivants par l'Esprit, que l'Esprit nous fait vivre. La vie du chrétien, hors de l'Esprit, il n'y a pas de vie. Nous marchons par l'Esprit, nous avons les dons de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, la sanctification par l'Esprit. C'est l'Esprit. D'ailleurs, quand on voit dans Ézéchiel cette vallée des ossements qui fait peur, n'est-ce pas, 37, eh bien, d'un coup, l'Esprit est venu. L'Esprit, le souffle est passé et les morts se sont mis à revivre parce que l'Esprit entra en eux. Et je veux croire que l'Esprit de Dieu est rentré en nous, il habite en nous, il demeure en nous et que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de vie. Ce lieu, avant tout, c'est un lieu de vie. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Nous marchons par l'Esprit. Nous sommes sous cette nouvelle alliance. D'ailleurs, Ézéchiel aussi le dit lui-même, le prophète, « L'Esprit entra en moi et il me fit tenir debout. » Nous ne pouvons tenir debout aujourd'hui dans ce monde de ténèbres, d'erreurs, des vents, toutes sortes de mauvais, négatifs, que par l'Esprit qui nous conduisait. Quand on voit Siméon, hein, Siméon, eh bien, la Bible nous dit que poussé par l'Esprit, il a conduit au temple, il a rencontré Jésus. Vous voyez, l'Esprit nous amène toujours à Jésus. Hein. Il est là pour non pas s'exalter lui-même, se glorifier, mais il est là pour exalter et glorifier le Seigneur Jésus. Hein. Alors, on a été bien baptisés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. On est des pentecôtistes, c'est normal, hein, mais c'est l'Esprit de vie. La rosée, c'est le symbole de l'action du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, nous avons besoin que la parole soit la parole de l'Esprit, que nos chants soient de l'Esprit et que l'Esprit nous conduise, parce que qui nous enlèvera au jour où le Seigneur reviendra, qui est sur les nuées du ciel? Parce qu'on va dire, mais oh là, il y a des kilos là, hein, à monter. Hein. Non, c'est l'Esprit de vie. Hein. L'Esprit qui nous donne la vie à la rencontre du Seigneur. Nombre 11, 9. Nombre 11, 9. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp d'Israël, n'est-ce pas? La manne y descendait aussi. La rosée est associée à la manne. Là où la rosée descend, la manne était présente. C'est le symbole, bien sûr, de la parole de Dieu. Jésus avait dit, je leur donnerai le pain du ciel. Si vous mangez le pain d'en bas, vous mourrez. Mais si vous mangez le pain d'en haut, eh bien, vous vivrez. Vous avez remarqué que chaque jour, comme la manne, eh bien, la manne descendait tous les jours, tous les matins, n'est-ce pas ? Et la rosée descendait en même temps. Donc la rosée, c'est quelque chose de tous les jours. La pluie, ça peut... 3 mois, il n'y a pas de pluie. En fin de compte, c'est grâce à la rosée que la nature vit. Et pourtant, la rosée est très discrète. Comme je disais tout à l'heure, elle est silencieuse, n'est-ce pas? Elle ne fait pas de bruit, mais elle descend. Elle est là, elle rafraîchit, elle renouvelle... Elle bénit, elle encourage. Que chaque matin, eh bien, la rosée puisse venir nous fortifier les uns les autres, nous donner une parole, la parole de Dieu. Et la parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de manne, mais il vivra de toute parole, les toutes paroles, parole vie. Qu'est-ce qui nous rend vivants, cette parole? C'est l'Esprit. Et cette parole, elle est là pour nous nourrir. Quand Paul disait à Timothée, prêche la parole. Parce que la parole, c'est la semence de vie. Le Seigneur confirme quoi? Sa parole. La parole, c'est l'épée de l'Esprit. L'Esprit se sert de la parole. On ne peut pas dissocier. Il y a des gens, ils mettront tout l'accent sur l'Esprit. Oui, d'accord, mais avec la parole. Et la parole, alors ils peuvent négliger ce qui est de l'Esprit, alors ils peuvent devenir légalistes. On peut prendre la parole, la citer hors de son contexte, pas dans l'Esprit, mais les deux sont liés. La vie chrétienne équilibrée, c'est deux jambes. Et l'Esprit nous amène à la parole, et la parole nous amène à l'Esprit. Le pain de chaque jour, quand la rosée descendait, eh bien, il y avait la manne. Et cette manne a fait vivre le peuple d'Israël pendant 40 ans. Bien sûr, vous me direz, le samedi, elle ne descendait pas. Oui, mais ils avaient double portion. La veille, ils avaient double portion. Vous voyez que le Seigneur faisait bien les choses. Ce qui est important pour une vie chrétienne, c'est, vous avez remarqué tous les textes où il est parlé, chaque jour, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain chaque jour. Et je pense que la vie chrétienne qui est régulière, qui est stable, qui est solide, qui persévère, qui grandit, c'est la vie chrétienne de tous les jours. Pas du dimanche matin. Parfois, on peut vivre que du dimanche matin. C'est bien, revenez toujours le dimanche matin. Je n'ai pas dit de ne pas venir. Mais ce n'est pas suffisant. C'est qu'un point. Mais la vie chrétienne, c'est chaque jour. Je suis avec vous que le dimanche matin. Non, je suis avec vous chaque jour. Heureusement, le Seigneur dirait, ah, le samedi, je ne suis pas là. Non, le samedi, c'est repos. Non. La vie chrétienne, c'est tous les jours avec le Seigneur, chaque jour. Quand ils se réunissaient, même dans le feu de la Pentecôte, eh bien, c'était chaque jour, Ils se réunissent chaque jour. La vie chrétienne, c'est chaque jour que Dieu nous donne. Nous soyons nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as suivie, Timothée. L'esprit, c'est la parole de Dieu. Ma parole est esprit et vie. Et enfin, nous arrivons, voyez, on y arrive, au psaume 133. Parce que le psaume 133, il nous parle de la rosée. Et c'est le symbole là d'autre chose, c'est le symbole de la communion fraternelle. Ce matin, vous avez bien chanté, unis. Nous sommes plusieurs, dans un lien. Alors quel lien? C'est le lien de l'amour. Mais en réalité, à la base, c'est le lien de l'esprit de vie. L'esprit qui nous unit, qui nous rassemble. Nous sommes assemblés au nom de Jésus. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient un seul cœur et une seule âme. Je ne vais pas vous citer toute la parole de Dieu, je serai épuisé. Mais vous avez bien compris. Le psaume 133, au verset 3, où il est dit... C'est comme la rosée de l'Hermon, la rosée de l'Hermon, la communion fraternelle et spirituelle. C'est une bénédiction d'être ensemble, et c'est une force. Le Seigneur ne nous a jamais appelés, et vous le savez, c'est écrit, c'est biblique, à être seuls. La solitude, ce n'est pas bon d'abord, c'est écrit, Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voyez. Déjà, au départ, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'est pour ça qu'il a créé la femme. Vous êtes indispensable. Bon, allez, revenons. C'est une unité. Ça a un sens spirituel. Il est doux qu'il est agréable pour des frères. Être frère, bien sûr, c'est des frères. On n'est pas frère avec, excusez-moi, avec n'importe qui. Il y a des faux frères aussi. Mais nous, on est des vrais frères. Voilà. Frères parce qu'on a le même Père, le même Seigneur. on est des frères. Alors, bien sûr, vous vous rappelez, au départ, il y a Adam et Ève, ils ont eu deux enfants, Caïn et Abel, ils étaient frères. Mais ils ne vivaient pas dans l'amour fraternel. Hein. Ils ne chantaient pas le psaume 133, hein, non. La jalousie qui a enfanté en eux, la rivalité jusqu'au meurtre. Caïn a tué son frère. Non, mais est-ce que c'est... On croit, j'allais dire rêver, non, c'est fort ça. Et le sens du terme hébreu, c'est il l'a égorgé. Hein. Vous vous rendez compte, il a, avec son frère, c'est une abomination. Oui. Parfois, je dis, et il faut faire attention à ça, on dit aujourd'hui, oui, dans le monde où on est, vous voyez, on est pollué dans tous les sens du terme, Internet, machin, truc, le monde, le... Ouais, mais à l'époque, ils n'avaient ni Internet, ni la télévision, ni... ils n'ont pas subi des influences extérieures, des exemples mauvais. C'est le cœur de l'homme. On ne comprend pas assez que tout le drame vient du cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme, il est mauvais, il est tortueux, il est qui peut le connaître, hein, misérable que je suis. Quand le publicain se frappait la poitrine, il visait juste. Il disait, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur. Vous savez, c'est du cœur de l'homme, que Jésus disait. Alors attention, oui, nous sommes dans un environnement pollué. Mais le problème, c'est que c'est notre cœur. Et la vie chrétienne, c'est le changement de notre cœur, c'est ça. Alors vous me direz, mais je suis loin de la perfection, mon cœur est encore... Oui, parce que nous sommes en transition, on quitte un monde pour aller à notre monde. On a commencé, on est né à une vie nouvelle, mais il y a encore la vieille vie. Hein. Il y a le Jacob et il y a le Ésaü. Hein. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Mais nous sommes appelés, ce qui est de l'esprit, de la vie, doit grandir en nous, se développer et prendre de plus en plus d'importance, de place, afin que Christ règne dans notre cœur. Le problème, c'est de rester un enfant. Non, nous devons devenir, la Bible dit, des adultes. Vous devez être des hommes et des femmes. Responsables, mûrs et engagés. À Corinthe, ils étaient restés encore un peu enfants. Hein? Puisqu'au milieu de vous, il y a des jalousies, des tiraillements, et ça, c'est les enfants. Des fois, on se dit... j'ai été pasteur d'une église, je crois 7. Bon, plus maintenant, mais j'ai dit, mais des fois, on dirait qu'on est des petits bébés, ouais, en train de se disputer pour rien du tout, quoi. Hein? Tu m'as piqué, tu m'as poussé, tu m'as dit, tu ne m'as pas salué, tu ne m'as pas... Oh là, ça, c'est de l'enfantillage. Non, aujourd'hui, on a besoin de devenir des gens matures. Amen. Hein. Des hommes et des femmes responsables. Ils ne vivent plus dans leur ego, mais ils vivent dans l'amour. Parce que l'ego, c'est l'envers de l'amour. Et quand on dit les liens qui nous unissent, c'est l'amour... L'amour, c'est le don de soi. L'amour, c'est le renoncement. L'amour, c'est chercher le bien de l'autre avant soi. L'amour, c'est ce que le Seigneur a fait. Il nous a aimés, il s'est livré, il s'est sacrifié, il s'est donné et il nous dit « Aimez-vous les uns et les autres. » Amen. Même ceux qui sont peu aimables. Ah, non, mais là, je déraille. Non, je reviens. Je reviens à mon texte. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères. On est des frères, pas du lien du sang, mais du lien de l'esprit. Qu'est-ce qui nous unit ? C'est l'esprit de vie. Et l'esprit, c'est l'esprit de l'amour. L'amour de Christ, pas notre amour, pas mon moi, pas mon ego. Non, on n'est pas là pour s'exalter soi-même. On est là pour manifester l'amour de Christ. Moi, j'aime ce verset qui dit « L'amour de Dieu répandu dans... » nos cœurs, par le Saint-Esprit. Que ce matin, la rosée du ciel descende sur nous. Elle est le symbole de l'esprit de vie, elle est le symbole de la parole de Dieu, elle est le symbole de la communion fraternelle dans laquelle nous avons besoin de persévérer, afin que quand on nous dit, et j'aime ça encore, j'aime tout, hein, David qui dit, qu'il est allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons au culte le dimanche matin à 10h. Le mardi aussi, hein, c'est bien, hein, le mardi. Et le vendredi, vous pouvez ajouter. Hein. Oh, vous pouvez ajouter toute la semaine. Il faut aller voir votre pasteur et lui dire non, mais on veut toute la semaine. Bon, il y a un temps pour tout, hein. Il y a un temps pour tout. Hein. On n'est pas encore dans un temps de réveil, mais quand il y a un temps de réveil, les choses se produisent comme ça, n'est-ce pas? Alors, ce matin, nous sommes un en Christ. C'est un miracle. Qu'est-ce qui nous unit? Le ciment de l'amour. Mais cet amour, ce n'est pas l'amour naturel. C'est l'amour de Christ en moi, par l'Esprit de Dieu. J'aime dans le Cantique des Cantiques cette parole qu'il est dit, « Ma tête est couverte de rosée ». Vous voyez, le bien-aimé, il arrive, il voit sa bien-aimée. Il dit, « Ma tête, elle est couverte, non seulement d'huile, hein, on aime bien l'huile, hein, parce que l'esprit, c'est le symbole de l'huile, mais de la rosée. Ma tête est couverte, c'est une couronne, hein, la rosée du ciel. » Et Dieu dit, « Je serai comme une rosée pour Israël. » Donc une rosée abondante, une rosée rafraîchissante, bénissante, vivifiante, bienfaisante, c'est là le don du ciel. Alors tout ce qui est négatif, s'il y a du vent, il n'y a pas de rosée. Si on est profane, il n'y a pas de rosée. Si on abandonne le Seigneur, on dira, « Mais il n'y a pas de rosée, il n'y a pas de rosée. » Non, soyons dans l'esprit. Soyons dans la parole et soyons dans la communion fraternelle. Que le Seigneur vous bénisse.